There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Commémoration du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Du 9 au 12 avril 1917, dans le nord de la France. Commémoration organisée cette année par le comité Vimy Toronto 2022. Le 9 avril 1917, une première vague de Canadiens avançant derrière un barrage roulant. Même si cette tactique d'artillerie assurait un certain couvert, nos soldats étaient quand même exposés à des tirs de mitrailleuses ennemies. Pour commémorer le 105e anniversaire de la bataille de Vimy, le comité Vimy Toronto 2022 vous donne rendez-vous dimanche 10 avril 2022 à 10h au 55 au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. C'est le métro Queen. Pour plus de renseignements, Monsieur Gérard Poupé-Hill du comité Vimy Toronto 2022. Vous pouvez le joindre par courriel au ggpoupéhill@gmail.com. Tous les détails sont sur notre site web popourrichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy du 9 au 12 avril 1917. Non plus jamais ça. 100 000 Canadiens participaient à la bataille de la crête de Vimy. Plus de 10 600 Canadiens blessés. 3 600 y laissèrent leur vie. Le courage, la bravoure, l'abnégation des vétérans est une source d'inspiration. N'oublions jamais. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy dans le nord de la France. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre est aux portes de l'Europe. Nos pensées vont aux populations civiles, familles pauvres et personnes vulnérables en Ukraine. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, dimanche 10 avril 2022, à 10h, au 55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto, métro Queen. Tous les détails sur popourrichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Non plus jamais ça, non plus jamais la guerre.
Événement.
France 24 vous fait vivre l'élection présidentielle française. Cette année, le président Macron sera-t-il réélu pour 5 ans ou sera-t-il battu par l'un des candidats déterminés à le faire tomber? France 24 couvre la campagne électorale et va à la rencontre des Français, des candidats et de leur soutien. Suivez l'élection présidentielle française tous les jours sur France 24 et France24.com.
Dimanche 10 avril 2022. Édition spéciale, aujourd'hui place au podcast du CREFO. Et le premier tour de l'élection présidentielle française, dès 19h50 ce soir, heure française, débat, interview, reportage, analyse et les premiers résultats sur France 24 à ne pas manquer. L'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm Toronto. Qui seront les vainqueurs de ce premier tour? Les Républicains vont-ils subir le même sort que le Parti Socialiste? La présidentielle française percutée par la guerre en Ukraine. 87% des jeunes ont l'intention d'aller voter. Jamais une telle crise internationale ne s'était déclenchée à quelques semaines d'un rendez-vous aussi décisif. L'élection présidentielle française de 2022, 12e de la 5e République et 11e au suffrage universel direct, va permettre d'élire le président de la République pour un mandat de 5 ans. Cette élection se déroulera dimanche, donc aujourd'hui 10 avril, premier tour, et 24 avril 2022, second tour, sauf décès ou démission du président en exercice. Emmanuel Macron, eh oui, l'actuel président de la République a été élu le 7 mai 2017 et son mandat s'achève officiellement le 13 mai 2022. Et selon le baromètre Elab du quotidien Les Échos, la cote de confiance d'Emmanuel Macron a gagné 5 points. Et oui, plus de 50% des Français disent lui faire confiance pour faire face à la crise provoquée par l'invasion de l'Ukraine. Alors que 65% des Français n'hésitent pas à dire que cette guerre influencera leur choix, les intentions de vote en sa faveur ont progressé de 2 ou 3 points pour atteindre, selon les sondages, entre 26% et 28%. Cette eau le place loin devant ses principaux concurrents. Désormais en 4e ou 5e position dans les sondages, Valérie Pécresse ne semble pas parvenir à redresser sa campagne. Après une défaite aux urnes en 2012 et 2017, quelles seraient les conséquences d'un nouvel échec pour son parti, les Républicains? Pourquoi cette campagne est-elle si difficile pour Valérie Pécresse? Est-ce un problème de personnalité, d'incarnation ou bien de ligne politique écartelée entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour? Quelles seraient les conséquences d'un échec aux urnes pour les Républicains? Allez, destination Paris avec France Inter et l'émission Le Téléphone Sonne.
France Inter, le 18-20, Jérôme Cadet.
Dans une campagne présidentielle, il faut toujours garder les unes des journaux dans un coin. Elles peuvent nous rafraîchir la mémoire. Alors en fouillant un peu, j'ai retrouvé deux titres consacrés à Valérie Pécresse. Ils datent de début décembre. Le scénario Pécresse inquiète la majorité, voilà le premier. Et puis celui-là, face à la percée Pécresse, la Macronie cherche la parade. Un sondage la donnait alors vainqueur au second tour face à Emmanuel Macron. 3 mois et demi plus tard, on n'en est plus là. La candidate LR a dévissé. Elle apparaît en 4e voire 5e position dans les sondages. Alors que s'est-il passé? Après 2012 et 2017, la droite se prépare-t-elle une 3e défaite? Saura-t-elle s'en relever ou suivra-t-elle un destin comme celui du Parti Socialiste? Avec quelles conséquences pour notre vie politique? Vous faites partie des déçus de la droite ou vous restez fidèles? Vous ne comprenez pas le silence de Nicolas Sarkozy ou vous l'approuvez? J'attends vos appels, questions et témoignages pour nos invités au 01 45 24 7000. C'est le téléphone sonne. Merci d'être avec nous.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier appel nous vient de Toulouse. C'est Étienne qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais témoigner du fait que j'ai voté à droite pour les Républicains en 2012 et 2017. Mais là, je me reconnais plus du tout dans Valérie Pécresse, parce que pour moi, elle n'incarne plus du tout les valeurs de réussite par le mérite ou la liberté d'entreprendre. Et la valeur travail, qui était des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais jusqu'à présent. Et je voulais savoir, d'après vos invités, pourquoi elle incarne si mal ces valeurs-là, alors que Nicolas Sarkozy ou même François Fillon, pour moi, les incarnait très bien.
C'est plus un problème de programme que de personnalité, Étienne, pour vous?
Oui.
C'est comme ça que vous le ressentez. Merci pour votre témoignage ce soir. Nos trois invités sont là pour vous répondre. Je vous présente Bruno Cotteresse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le CVPOF. Quentin Laurent avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France, spécialiste de la droite mais aussi de l'extrême droite, dont vous suivez les candidats dans cette campagne. Nous sommes également avec une voix qui vous est familière, celle d'Anne Souhaitemont. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service politique de France Inter et vous suivez particulièrement la campagne de Valérie Pécresse, ce témoignage d'un électeur de droite 2017-2012 et qui ne va pas voter Valérie Pécresse. Vous en avez sans doute déjà rencontré, Anne Souhaitemont, dans cette campagne?
Ah oui, il y en a beaucoup. On les croise alors peu dans les meetings, puisque par définition, dans les meetings, on croise plutôt ceux qui sont convaincus. Ce qui est intéressant, c'est que sur la valeur travail et sur le programme, finalement, Valérie Pécresse, elle essaye de l'incarner, cette valeur travail. Elle a des mesures. Ce qui est intéressant dans ce que dit Étienne, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'arrive pas aux oreilles de ses électeurs, parce que dans son programme, par exemple, il y a une augmentation de 10% des salaires pour tous ceux qui sont en dessous d'un peu plus de jusqu'à 2300 euros par mois. Et normalement, c'est censé récompenser la valeur travail. Mais ça n'arrive pas aux oreilles des auditeurs. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est intéressant de demander à Étienne pourquoi est-ce qu'il n'entend pas alors que finalement, elle essaye d'en parler.
Elle n'est pas assez audible. C'est le constat que vous faites aussi, Quentin Laurent?
Il y a plusieurs explications. En fait, il se trouve qu'il y a un bon paquet d'électeurs de la droite de Nicolas Sarkozy en 2012 et de François Fillon en 2017 qui ont été déçus par ce qu'a pu faire la droite, déçus par ce qu'elle a pu incarner ou manquer d'incarner ces dernières années. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, il ne s'y retrouve plus vraiment.
Bruno Cotteresse, est-ce qu'on sait comment se répartit le vote François Fillon de 2017? Que deviennent ces électeurs qui ont voté pour François Fillon en 2017, qui est arrivé en 3e position il y a 5 ans?
Deux points. Le premier, effectivement, il y a beaucoup de déchets pour la candidate aujourd'hui des Républicains. Elle ne retrouve pas, loin s'en faut, l'ensemble de l'électorat de François Fillon qui s'est réparti, qui est en partie parti chez Emmanuel Macron au cours du mandat d'Emmanuel Macron, mais aussi qui qui a déserté un petit peu effectivement le camp des républicains. Alors c'est un peu bizarre, ça n'arrive pas aux oreilles effectivement, parce que effectivement la candidate LR essaie bien d'occuper ce segment. N'avait-elle pas essayé de reprendre un certain nombre de mots issus du sarkozysme, d'ailleurs.
Le Karcher, notamment.
Oui, bien sûr. Et nous, on réalise au Cevipof quelque chose qui s'appelle la boussole présidentielle et qui permet aux électeurs de savoir le candidat dont ils sont le plus proches. Et pour faire ça, on va coder, nous, le programme des candidats à l'élection présidentielle. Et sur les dimensions économiques, je peux vous dire que notre codage, il met quand même bien Valérie Pécresse, bien à droite, sur l'axe qui va de l'intervention de l'État au libéralisme économique. Elle est quand même bien campée sur le libéralisme
économique. Donc le programme, il est là, comme le soulignait Anne Souhaitemont.
Tout à fait, il est là, et effectivement, ça n'arrive pas aux oreilles des électeurs ou des sympathisants. Peut-être qu'ils trouvent qu'elle a trop occupé d'autres dimensions, qui sont des dimensions qui tiennent à cœur des électeurs de droite, mais sur lesquelles Valérie Pécresse a beaucoup occupé l'espace pendant la primaire et après la primaire, hein, toutes les dimensions d'immigration en particulier, de sécurité. Donc peut-être l'électorat trouve qu'elle
est trop loin à l'extrême droite pour le dire vite.
Peut-être qu'elle n'a pas assez parlé d'économie et pas assez de dépenses publiques, et pourtant Dieu sait qu'elle en a parlé avec son fameux Macron à cramer la caisse.
Et en plus, c'est son ADN a priori à droite. Elle est plutôt sur une ligne économique plutôt que sur le régalien à la base, Valérie Pécresse. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle s'est, elle s'est métamorphosée à la faveur de cette primaire, de cet électorat qu'il a fallu aller chercher. Et elle en a perdu ce qui faisait sa saveur.
Pourtant, elle a fait référence à François Fillon régulièrement dans cette campagne, Quentin Laurent.
Mais pour reprendre ce que disaient mes camarades, il se trouve que depuis 2017, Emmanuel Macron est allé de plus en plus sur le terrain de la droite, sur le terrain économique, sur le terrain des idées. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour Valérie Pécresse, même si elle parle de la dette, elle parle de sécurité. Elle est moins audible parce qu'en fait, elle n'est plus seule à parler de ces sujets-là.
On va parler de la concurrence du chef de l'État candidat à sa réélection dans une minute. D'abord, on va donner la parole à Marianne qui nous appelle de Bourgogne. Bonsoir Marianne.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Eh bien, oui, j'ai appelé pour donner mon opinion d'électrice. Je trouve que j'étais très très déçue par Valérie Pécresse. Je trouve qu'elle a aucun charisme. Elle a une petite voix aiguë. Elle se fâche comme une petite fille. Mais ça, c'est moi qui l'avais dit. Et puis, je veux pas qu'on. Il fallait pas me le prendre. Elle reprend les slogans des autres. Elle est partie dans tous les sens tout au début. C'est vraiment très, très décevant. Et d'une manière générale, cette campagne, elle est décevante.
Est-ce que vous vous êtes intéressée à son programme, Marianne?
Oui, je sais qu'elle a beaucoup travaillé. Il me semble qu'elle a travaillé avec François Fillon. Il y a eu un moment où ça me semblait sérieux, tout ça. Mais elle a tout gâché.
Vous êtes une électrice de droite, pardon d'être un peu indiscret,
oui.
Marianne, d'accord.
Oui.
Et là, vous avez d'ores et déjà fait votre choix ou pas?
Oui, et je pense qu'il va y avoir des grosses surprises, parce que les gens autour de moi sont tous un peu, pensent tous un peu la même chose. Il faudrait que nos politiques comprennent que nous, on a besoin de participer, et qu'on veut plus que ça vienne de haut et que ça nous tombe sur la tête. Ce qu'on veut, c'est l'inverse. On veut donner notre avis, et on veut des comités de réflexion, et on veut participer. Mmh. Les Français sont éduqués, et ils sont capables de faire ça. Et quand les politiques auront compris ça, les gens retourneront voter. Voilà.
Merci Marianne pour ce témoignage. Donc électrice de droite, là il y a aussi tout un discours autour de la manière de faire campagne de Valérie Pécresse qui a été beaucoup décriée, voire tournée en dérision. Anne Souhaitemont, je pense au meeting du Zénith.
Voilà, évidemment
début février.
Le Zénith qui avait été présenté en plus comme un meeting qui devait être un tournant dans cette campagne et donc qui a créé comme ça beaucoup d'attentes, et finalement sur la forme, on sait qu'il a été extrêmement critiqué. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Marianne, c'est qu'elle dit pas de charisme, même si on sait qu'elle est sérieuse. Et aujourd'hui, j'ai eu des cadres de la campagne au téléphone, dont un cadre qui me disait, en fait, notre problème, c'est pas le problème du fond, c'est vraiment un problème de forme sur cette campagne. Ils en sont assez conscients, mais ils n'arrivent pas à dépasser ce problème de forme. Effectivement, le charisme, ils le disent beaucoup, il nous manque une patte Pécresse, on la connaît pas assez, alors que pourtant, dans le privé, elle est plutôt sympa, convaincante, mais ça, ça passe pas le mur des meetings et des émissions de télé.
Bruno Cotterêts, il y a vraiment un avant et un après meeting du Zénith dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages. En tout cas, le décrochage, il est net à partir de début février.
Ce qui est certain,
c'est quoi? C'est le déclencheur ou c'est quelque chose, c'est l'allumette en fait qui...
Peut-être, oui, peut-être c'est difficile de savoir où est la cause, où est l'effet, mais ce qui est certain, c'est qu'un meeting, ça a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu qui est un enjeu de production d'image. il est non seulement de s'adresser aux électeurs potentiels, aux militants, pour leur montrer que le candidat, il a le feu sacré, qu'il va y arriver, qu'il incarne, effectivement, et ça produit aussi des images qui s'imposent et qui perdurent, qui restent. Et c'est vrai que la production d'images n'a pas été au rendez-vous, ça c'est certain, et c'est vrai que ça a donné le sentiment, peut-être, qu'un problème d'incarnation. Alors c'est dur, hein, l'élection présidentielle, parce qu'il faut réunir des qualités qui sont presque inconciliables. Les électeurs veulent tout et le contraire, ils veulent un candidat qui fait chef, qui a le charisme, qui a l'étoffe du héros, président ou présidente de la République, et qui en même temps serait proche des gens, qui écouterait, qui discuterait, qui ferait le programme avec les gens. Notre auditrice le disait,
ce qu'elle appelle
les citoyens, ils peuvent participer à la production du programme, ils ont des choses à dire. Et en même temps, si le candidat disait, ben moi je suis simplement à votre écoute, on dirait, ben ça va pas du tout, c'est pas un leader. Et donc il y a cette double exigence dans l'électorat aujourd'hui qui fait que l'élection présidentielle est devenue une compétition extrêmement difficile, peut-être même un peu cruel pour les candidats qui mettent beaucoup de leur sincérité. Et puis bah, finalement, ils sont face à quelque chose qui est très, très, très compliqué à incarner.
Vous parlez de cruauté, Bruno Cotteresse. Quentin Laurent, les proches de Valérie Pécresse sont allés jusqu'à parler d'un Pécresse bashing, comme si on était plus dur avec elle qu'avec d'autres candidats ou candidates, d'ailleurs.
Oui, le premier réflexe, ça a été de dire, est-ce qu'on aurait dit ça si ça avait été un homme? Voilà, c'est parce que c'est une femme qu'on s'en prend à elle, qu'on dit qu'elle est mauvaise oratrice. Ils ont un peu... au début, au lendemain du Zénith, chercher à contrecarrer les critiques, avant, avec la candidate quelques jours plus tard, finir par reconnaître, bon ok, c'était un meeting raté, c'est pas son exercice favori, il faut aussi dire quand même qu'elle est, c'est vrai, assez mal à l'aise, pas à son aise en tout cas dans les meetings, elle l'est davantage lors des émissions, les émissions radio, les émissions télé, où là, elle est... plus sur son terrain de jeu.
Mais ça, c'est vraiment central, je vous pose la question à tous les trois. C'est-à-dire, si on est mauvais en meeting, on sera jamais président ou présidente de la République. Le premier meeting d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, c'était pas non plus du Hollywood, si vous me permettez l'expression.
Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée entre reporters politiques, puisque nous, on les fait, les meetings, on se demande toujours est-ce qu'il va y avoir effectivement un effet dans les sondages, auprès des électeurs. Ce qui est très intéressant, c'est que quelques jours après le meeting du Zénith, meeting raté dont on parlait tout à l'heure, Valérie Pécresse est allée à Cannes. Et à Cannes, elle a déambulé, comme on dit dans le jargon politique, dans la rue. Elle a été alpaguée par beaucoup de gens. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens lui parlaient beaucoup du Zénith. Des gens qui disaient, il faut que vous arrêtiez de faire semblant. Vous êtes super, vous pouvez être vous-même et tout ça. Donc quand même, ça marque dans l'opinion. On force est de constater que les gens lui ont parlé du Zénith. Et puis Bruno Cotteresse parlait des traces. Il y a les images qui ne sont pas restées, mais il y a celles qui sont restées. Les parodies, les réseaux sociaux. Chez Valérie Pécresse, c'est destructeur en ce moment.
Et ça peut laisser des traces, ça peut convaincre des électeurs, Quentin Laurent, Bruno Cotteresse, l'image tournée en dérision?
L'image, évidemment, c'est une dimension importante. Hein. On est dans une société de l'information et de l'image, évidemment, donc c'est très important. Mais les ressorts idéologiques du vote, les ressorts sociologiques sont toujours extrêmement puissants pour gagner une élection présidentielle, bien sûr, qu'il faut... performés en meeting, tous ceux qui ont été élus ont marqué par un meeting important. Rappelons-nous les meetings, le fameux meeting de Nicolas Sarkozy, le meeting de François Hollande, mon ennemi c'est le monde de la finance. Donc voilà, il faut un moment donné qui montre au camp qu'il y a un véritable engouement et que le candidat, il est dans le truc, qu'il sait lui-même d'une certaine manière, peut-être qu'il peut gagner, qu'il va gagner. Donc ça, c'est très important. Mais les ressorts idéologiques et sociologiques du vote restent quand même les principales motivations des électeurs.
Arthur nous appelle de Strasbourg. Bonsoir Arthur.
Oui, bonsoir. Alors, je voulais réagir plus par rapport au fond des propositions de campagne. Vous parliez de l'image de Valérie Pécresse, etc. La question que je me pose, moi, c'est, en fait, si on vote à droite, on a tout à gagner à voter pour Emmanuel Macron, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'il mène une politique de droite, qu'on soit d'accord ou pas avec, c'est ça. Et là, les dernières propositions, la retraite, le RSA, ce genre de choses, vont dans le sens de ce que proposent traditionnellement les LR, depuis toujours, j'ai presque envie de dire. Donc, en étant électeur de droite, on dit, on va prendre celui qui est aux manettes, il connaît le job, il a une petite gueule sympathique, pourquoi est-ce qu'on irait ailleurs, puisque j'ai tout à gagner à voter pour Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron continue à être présenté comme candidat centriste, ce qui me paraît pas vraiment clair ou logique comme constat.
En tout cas, il refuse les étiquettes et il l'a encore répété la semaine dernière. Merci Arthur pour cette remarque. Question Quentin Laurent. ans, il a asséché finalement du côté des idées Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, mais aussi du côté du personnel, hein, parce que Éric Woerth, Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi ont rejoint le président de la République ces dernières semaines.
C'est une remarque intéressante que celle d'Arthur, parce que c'est vrai qu'une des difficultés de Valérie Pécresse dans cette élection, c'est de réussir à se différencier d'un Emmanuel Macron qui, au fur et à mesure du quinquennat, est venu de plus en plus sur son terrain, sur le terrain de la droite. Et c'est ce sur quoi elle essaye de se différencier dans cette campagne, ce qui n'est pas évident, mais elle essaye de le critiquer sur son bilan. Elle le dit, par exemple, sur le régalien, donc sur les questions de sécurité, d'immigration, Emmanuel Macron ne serait pas de droite. Il n'a pas, par exemple, permis de réduire la dette, ce qui est quelque chose qui, en général, parle beaucoup aux électeurs de droite, tout comme il n'a pas fait de réforme des retraites. Donc la réforme des retraites qui est, en général, un autre argument.
Donc il y a des angles d'attaque qui continuent à peser dans la vie politique.
Moi, je serais tentée de dire que là aussi, il y a deux lignes. Il y a ceux qui disent qu'il peut y avoir une forme de redressement dans le cas où Emmanuel Macron serait réélu, une volonté de rééquilibrer un petit peu au Parlement. Et effectivement, il y a cet ancrage territorial. Et puis, il y a ceux qui disent il y a quand même, en général, un renforcement du résultat présidentiel dans les législatives, auquel cas, si Valérie Pécresse est très bas, ce que semble laisser présager les sondages, ça pourrait être une catastrophe.
Ce ne sont que des sondages, je le rappelle.
Exactement, et on est encore à 3 semaines de l'élection. Mais il y a un peu les deux. Pour l'instant, c'est très flou. Hein.
Bruno Cotresse,
ça sera difficile quand même d'éviter le phénomène effectivement habituel d'enchaînement entre la présidentielle et les législatives.
Depuis... Il y a 5 ans, LR avait résisté.
Ils avaient résisté, mais quand même, ils avaient perdu beaucoup de députés. Ils avaient beaucoup mieux résisté. Voilà, beaucoup mieux résisté que d'autres formations politiques. Mais quand même, ils avaient perdu beaucoup de députés. Et c'est vrai que du point de vue de la mobilisation de l'électorat, du point de vue de l'implication des militants pour la campagne sur les législatives. C'est pas évident quand un candidat n'a pas bien réussi l'élection présidentielle de relancer la machine. Ça, c'est sûr.
Quentin Laurent?
Un des éléments qui va être cruciaux, c'est le score en fait du premier tour de la présidentielle, parce que si Valérie Pécresse, si elle s'effondre ou si au contraire elle résiste bien, elle réussit à remonter, en fait la configuration après est pas la même. C'est-à-dire que des fuites des départs de députés à gauche, à droite, qui pourraient affaiblir LR, pourraient avoir ou ne pas avoir lieu. Donc tout le monde va regarder le score sur le premier tour.
Et c'est tout l'enjeu de ces derniers jours de campagne. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce téléphone sonne ce soir. Bruno Cotresse, chercheur au Centre de recherche politique de Sciences Po, Quentin Laurent, journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France, Anne Souhaitemont, journaliste au service politique de France Inter. Excellente soirée à vous.
Événement.
France 24 vous fait vivre l'élection présidentielle française. Cette année, le président Macron sera-t-il réélu pour 5 ans ou sera-t-il battu par l'un des candidats déterminés à le faire tomber? France 24 couvre la campagne électorale et va à la rencontre des Français, des candidats et de leur soutien. Suivez l'élection présidentielle française tous les jours sur France 24 et France24.com.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Yeah, moi je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Nédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Nédor Fondation, Diversity Our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Nédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Nédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Encore.
Eh oui, ça fait 15 ans Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc est un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Pau Pourri Chaud et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Et oui, aujourd'hui, les podcasts à Quoi de neuf, les cafés du Créfaux nous transportent dans l'univers d'un Africain passionné par le cinéma et la photographie. Professeur Laura Bisaillon, membre du CREFO, animatrice de Quoi de neuf, les cafés du CREFO, rencontre Joseph Bitamba, réalisateur et scénariste. Joseph Bitamba est originaire du Burundi, où il a d'abord travaillé à la télévision nationale. Il a ensuite suivi plusieurs stages en Belgique, en France, au Burkina Faso, où il a obtenu un certificat en scénarisation à l'École internationale de Bordeaux, ainsi qu'un certificat en direction de production cinéma à Paris à l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. En 2003, Joseph Bitamba s'installe à Toronto où il fait de la scénarisation, de la réalisation et suit des stages d'écriture de scénarios et de réalisation de documentaires organisés par l'Office national du film à Toronto. Il réalise des documentaires diffusés sur Radio-Canada, TFO, TV5 et travaille comme réalisateur et journaliste pour TFO. Télévision française de l'Ontario. Joseph Bitamba a collaboré à plusieurs projets de films internationaux et de recherche avec différents organismes internationaux, entre autres l'ONU, New York Times, Vice News, ICG, CICR, Law Group, Save the Children. Il a participé à de nombreux festivals, Climat, FESPACO, Vue d'Afrique, à Montréal, à Milan, Namur, Amiens, Nairobi, Kampala, et remporté plusieurs prix. Il collabore avec plusieurs TV radio au Rwanda, Contact TV, TV Renaissance, TV 10. Il est conférencier sur des sujets de réconciliation et médiation quand le temps lui permet et aime échanger avec des jeunes sur le cinéma. Passionné par la photo, il dispose, tenez-vous bien, d'une photothèque de plus de 50 000 photos de tournage, de nature et de voyage. Allez, Joseph Bitamba, l'invité du podcast Quoi de neuf, animé par professeur Laura Bisaillon, que voici.
Dans cette troisième saison, Laura Bisaillon, membre du CREFO, et ses invités discuteront du thème de la production et de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans ces divers contextes du monde. Dans cet épisode, elle rencontre le cinéaste et réalisateur Joseph Bitamba.
Ce qui initie la guerre en général, c'est des luttes politiques qui engendrent beaucoup de souffrances auprès des populations, dont les victimes de viols.
Bienvenue à Quoi de neuf?
Joseph Bitamba est réalisateur, producteur et scénariste. Originaire du Burundi, il a d'abord travaillé à la télévision nationale burundaise comme responsable des émissions pour enfants et jeunesse. Il réalise des documentaires diffusés sur Radio-Canada, TFO, TV5 et travaille comme réalisateur et journaliste pour TFO. Il collabore avec plusieurs TV et radios au Rwanda. Depuis 2011, il est réalisateur et producteur indépendant. Et depuis 2003, il habite à Toronto. Alors, je te souhaite la bienvenue, Joseph, sur l'émission Quoi de neuf du CREFO. Alors, ça m'a fait grand plaisir de te recevoir aujourd'hui.
Bonjour, ça m'a fait plaisir aussi. Merci de m'inviter.
Ah oui, ça nous fait plaisir et ça va faire plaisir aux auditeurs, c'est certain. Alors Joseph, parlons de choses peut-être très concrètes. Tu es en ce moment au Rwanda en tournage, mais j'aimerais qu'on commence d'abord à parler de ton film le plus récent, c'est-à-dire Les Oubliés des Grands Lacs, qui est sorti il y a 2 ans, en 2020. Alors, pourrais-tu nous en parler? Raconte-moi de quoi il parle, ce film.
Alors, le film Les Oubliés des Grands Lacs, comme son titre l'indique, ce sont des femmes, parce que c'est oublié au féminin. Ce sont des femmes qui ont survécu ou qui... On les appelle plus victimes vraiment parce que elles ont fait un bout de chemin vers la reconstruction. Donc c'est un film qui traite du sujet délicat de viol en période de conflit. Et le film est en 3 parties. Ça commence au Rwanda avec les viols massifs de 1994 et ça va au Congo où il y a eu une guerre terrible, où il y a eu beaucoup de viols aussi. Dans les années 97-98, et puis ça se termine au Burundi où il y a eu la même chose, beaucoup de viols pendant le conflit de 2015. Donc j'ai suivi un peu différentes femmes qui ont accepté, la plupart pour parler pour la première fois. Donc j'ai suivi un peu leur parcours, leur reconstruction, leur résilience.
J'ai vu, parce que tu as partagé le lien vers ce film et un autre film que tu as réalisé en 2017, n'est-ce pas? Donc, je les ai vus avec ce film-là, Les Oubliés au féminin des Grands Lacs. Ce qui m'a frappé aussi, c'était votre approche ethnographique, c'est-à-dire ton équipe les a suivis de près sur peut-être plusieurs mois, sinon peut-être une année, mais c'était un suivi assez continu et assez intime, je dirais, non? Des portraits intimes et vous êtes allé comme équipe dans des maisons, aller chercher des femmes qui étaient en consultation et réunies en groupe de soutien. Comment est-ce que l'accès en tant qu'homme aussi, comment tu as pu avoir accès, disons, à ce regroupement de femmes au-delà des frontières des 3 pays?
Ça a été le plus difficile, c'est de trouver des femmes et qui acceptent de parler à un homme. Et moi-même, je m'auto-censurais parce que je me disais, des fois, je me retrouvais devant une femme, elle racontait son histoire, et j'avais honte, j'étais comme un usurpateur. Et je représente aussi le sexe masculin qui a fait du tort à ces femmes. Donc ça, c'était pas facile, mais je suis allé plusieurs fois en fait. Les premières fois que je rencontrais les femmes, je les rencontrais tout seul, pas en équipe. J'ai une petite caméra, donc j'avais des images de soutien, et comme ça, elles aussi se familiarisaient avec cet outil, parce que des fois, c'est des femmes qui n'ont jamais vu une caméra ou un appareil photo. Et je les ai mis en confiance comme ça. Le reste, je sais pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'elles ont trouvé. Je les ai rassurées en même temps. Je faisais pas du voyeurisme ou une enquête ou une recherche. Je voulais juste qu'elles partagent avec moi, à travers moi, avec les gens qui verront le film, leurs histoires, parce que c'était des histoires des fois vraiment horribles. Et je les remercierai jamais d'avoir partagé leur intimité, leur. Et il faut savoir aussi que dans cette région, comme un peu partout dans le monde, c'est très difficile pour les victimes de s'exprimer, de parler de ce sujet-là, pour plusieurs raisons. Déjà, la tradition, on ne parle pas de ce genre de choses, mais aussi elles sont victimes et se disent que jamais elles n'auront la justice de leur côté, parce que c'est, si c'est des militaires ou des milices qui les violent, les milices sont commanditées par la plupart des politiciens, donc elles sont fatalistes, elles se disent on n'aura jamais la justice, et la plupart n'ont pas eu de justice jusque-là. Tout ce qui s'est passé en 94, 97, 18, aujourd'hui au Burundi. Donc, quelque part, les femmes sont subissent une double peine, à mon avis, parce que elles savent pas où aller, elles savent pas à qui s'adresser, et s'adresser à des gens aussi, c'est difficile. La plupart se font encore soigner jusqu'à aujourd'hui des séquelles de ces viols. Donc, sont des choses tellement intimes. Il y en a même qui ne m'ont pas parlé, parce que, par exemple, il y a une jeune fille qui a été violée très jeune. J'ai dû deviner qu'elle avait un problème, parce que des fois, elle venait pas au rendez-vous. Et j'en ai parlé au mouvement des femmes pour qu'elles s'en occupent. J'ai dit aux femmes que je sentais qu'il y avait quelque chose qu'elles voulaient pas me dire. Pas pour me cacher, mais parce que elle osait pas me le dire. C'était comme son père. Donc, elle osait pas me le dire. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait, que les femmes l'ont amené chez un gynécologue qui a pu la soigner.
En fait, c'est cette approche que j'appelle ethnographique, mais aussi d'une grande sensibilité. Ça se communique très bien dans le film. Ça se sent, ça se voit que tu as pu non seulement faire un terrain de longue durée, mais dont tu as fait preuve de beaucoup d'écoute. Hein? Je me suis demandé quand je regardais ce film. Bon, tu es né au Burundi, c'était peut-être la raison pour laquelle tu t'es intéressé au sujet, mais peut-être que tu pourrais nous parler des raisons du film, des pourquoi, parce qu'il y a peut-être un volet sociopolitique évidemment, mais il y a peut-être un côté, je sais pas, affectif. Ça nous interpelle, ça t'a interpellé comme être humain. Vivant ici, mais toujours à cheval, peut-être entre ici et là.
Je viens du Burundi, donc pour les gens de ma génération, on peut dire old school, la femme était sacrée. On ne touchait pas à la femme, même pendant les conflits. Dans la tradition burundaise, on se battait entre hommes, on ne touchait pas. Ceci est valable pour le Burundi, mais aussi pour la région. Même une petite fille, on l'appelle maman, on l'appelle pas par son nom. Donc, avec les conflits entre guillemets modernes, on a brisé beaucoup de tabous, on a brisé beaucoup de traditions, on ne respecte plus rien. Comme je le disais tantôt, c'est souvent des militaires ou des rebelles ou des milices d'un gouvernement, comme dans le cas du Burundi, qui font ces viols, donc qui ne respectent rien. Je ne vais pas rentrer dans la façon de procéder. Des fois, ils sont drogués, des fois, ils ont bu des bières, ils ne savent plus ce qu'ils font. Les enfants soldats, tout ça contribue à ce que on ne respecte plus rien, en fait. En fait, le film est parti, je faisais une enquête, mais pas pour un film, mais pour une ONG, dans les camps de réfugiés, et c'est une femme, alors que je lui posais même pas la question, qui est une Burundaise, qui était dans un camp de réfugiés, un des camps le plus peuplé en Tanzanie, qui m'avait parlé du viol qu'elle avait subi. Je posais des questions sur autre chose, mais elle a tenu à me le dire. Et en même temps, elle a éveillé mon intérêt sur le sujet. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que ça avait une ampleur aussi grande dans la région. Donc voilà. Donc, le côté ethnographique, c'est que je suis déjà un passionné d'histoire depuis tout petit. Et je suis un militant de la paix aussi. Et je comprends pas pourquoi il y a une multiplication des guerres qui s'arrêtent pas dans cette région. Alors que c'est une belle région, on a à peu près tout. On ne meurt pas de faim comme ailleurs. Mais malgré ça, il y a des conflits cycliques qui ne s'arrêtent pas. Et les perdants, c'est toujours la population qui est déplacée, qui est tuée, qui est donc maintenant les femmes violées. Ça a toujours été ma préoccupation. Pourquoi cette région ne peut pas s'asseoir ensemble, discuter et amener la paix durable. Pas une paix sur 10 ans, mais une paix sur beaucoup d'années. Et au Burundi, la communauté internationale, à un moment donné, s'était tellement investie. Et je crois savoir que c'est le Canada a été un des initiateurs pour amener cette paix. Et la première femme qui a représenté l'ONU au Burundi après l'accord de paix signé, c'était une Canadienne avec laquelle je me suis beaucoup entretenu et qui a beaucoup fait. Elle s'appelle Caroline Makaski et qui a beaucoup fait pour les femmes au Burundi. Mais malgré ça, on retombe toujours dans les travers. C'est comme si on n'apprend pas de leçons de notre propre histoire.
Oui, tout à fait. Je suis tout aussi désolée que toi aussi. Hein. On a du mal à comprendre ces cycles de violence et ces cycles de guerre qui font des ravages, surtout auprès des jeunes et des femmes. En tout cas, c'est ce que tu soulignes dans ton film, hein, ce premier film. Une dernière question peut-être au sujet de ce film, on l'a bien dit à quelques reprises, son titre « Les oubliés des Grands Lacs » au féminin. Alors, je me suis penchée sur le titre finalement. Donc, « Les oubliés des Grands Lacs » sous-entend ou dans ce titre, on suppose un oubli. Alors, un oubli par qui? Du grand public mondial, du oublié par qui? Moi, je côtoie des Rwandais, des Burundais depuis les années 90 environ, à Montréal, à Ottawa, là à Toronto. Même toi et moi, on s'est rencontrés en 2017, hein, je pense, lorsque Madame Barankiste était là pour lancer Barankiste Maggie, qui était là pour lancer au moment du lancement de ton film Oasis de paix, hein, 2017. Alors la question est la suivante, mais donc, oubliées par qui et comment et par qui elles sont oubliées, pas par nous, pas par toi. Alors, oubliées, si on donne ce titre au film, oubliées par qui finalement? Et elle est en partie peut-être une question, hein, donc c'est peut-être lié aux conclusions qu'on pourrait tirer de film. Et je pourrais peut-être demander ça comme ça, quelles sont les conclusions que tu en tires de ce film-là ou devrions-nous en tirer?
Ben, ce sont des oubliés dans la mesure où, d'accord, ben, toi, moi, peut-être quelques personnes, on s'occupe du sujet, mais les victimes elles-mêmes préfèrent oublier plutôt que de faire quoi que ce soit. Et je parlais dans le titre, je voulais surtout alerter les décideurs politiques, les politiciens, ceux qui initient les guerres, mais aussi la communauté internationale. Je vais commencer par ceux qui initient la guerre. Ceux qui initient la guerre, en général, c'est des luttes politiques qui engendrent beaucoup de souffrances auprès des populations, dont les victimes de viols. Dans toute résolution de conflit, je n'ai pas vu un endroit où on mentionne qu'il faudra, par exemple, indemniser ou juger les violeurs en période de conflit. Je cherchais, j'ai pas trouvé. Ça, c'est un point. Il faut que dans la résolution des conflits, il n'y ait pas partage seulement de pouvoir ou de, je sais pas comment on règle ce genre de conflit, mais il faut penser beaucoup à ces victimes. Parce que c'est de tout temps, l'homme initie la guerre, mais c'est la femme qui est la première victime. Même sans être violée, c'est elle la victime. C'est elle qui perd son mari. C'est elle qui perd son enfant, c'est elle qui perd son frère, c'est elle, et elle peut rester là sur la colline toute seule. Dans le cas du Rwanda, par exemple, pendant le génocide, les femmes sont restées seules sur les collines. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécifique, un accent mis sur la condition des femmes? Oui, au Rwanda, ils ont fait un effort, mais les femmes le jugent pas suffisant. Et moi, en tant que féministe, je le suis pas parce que j'ai fait le film, je défends toujours la cause des femmes. Et je trouve que on ne fait pas assez pour les femmes. Et une des meilleures façons de faire pour aider ces femmes, je pense qu'il faut les impliquer dans les cercles de décision au sein même des pouvoirs. Il faut qu'elles, pendant les négociations ou pendant les résolutions des conflits, elles soient déjà impliquées pour parler de ces sujets qui les concernent et que des solutions soient proposées déjà dans les premières négociations. Pas seulement aller partager, toi tu seras premier ministre, moi je serai président, on aura 5 ministres, 4. Il faut trouver des solutions parce que tout ça arrive parce que les hommes se sont battus. Voilà. Donc pour le deuxième point, internationalement, dans le film vous avez vu que je suis allé au forum, le premier forum. Déjà c'était le premier depuis le temps qu'on parle de viol comme arme de guerre. C'était la première fois qu'il y avait un forum où on invitait les victimes au Luxembourg. Et c'est ça, c'est grâce à la grande duchesse de Luxembourg qui s'est beaucoup investie, qui a invité tout le monde, l'ONU, tous les militants étaient là. Et donc, ils ont décidé, c'était une excellente initiative, ils ont décidé de demander à l'ONU qu'il y ait un vote d'un fonds où les États participent, un fonds d'indemnisation. Même à l'ONU, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez très bien que un sujet aussi sensible, si même l'ONU hésite à mettre un fonds, qui serait que c'est pas l'ONU qui va l'alimenter, c'est les États en conflit qui devraient l'alimenter, et que ce vote ne passe pas, alors qu'il est initié par une grande duchesse militante de ses droits, je trouve qu'il y a un problème dans le monde qu'il faudra à un moment donné s'asseoir et résoudre.
Ce que je retiens de ton corpus de travail, parce que là j'ai vu plusieurs de tes films et j'apprends beaucoup aujourd'hui grâce à cet échange, le style documentaire, hein, être film, parce que tu travailles dans ce genre-là, tu documentes, tu réalises des films documentaires, donc ce genre de film est provocateur, n'est-ce pas? C'est un des souhaits du projet documentaire, hein, d'un documentaliste, mais ce qui est particulier chez toi, c'est que tu es voué à la paix, tu l'as dit au début, tu es féministe, tu es voué à la réconciliation, à la paix, tu travailles auprès des jeunes, donc à cette fin, tu fais du travail de terrain très précis, tu suis de près les individus dans leur chez eux. Donc, pour des fins paisibles, tu provoques. Ce qui est intéressant, non? C'est pas tout réalisateur genre documentaire qui serait voué à la paix. Est-ce qu'il existe des contradictions? Est-ce qu'il existe une contradiction entre être voué à la paix et vouloir provoquer?
Non, je trouve pas. Je trouve que des réalisateurs comme moi ou comme j'en connais d'autres qui font le même genre de travail. C'est juste que il y a des sujets qui révoltent et dépendamment de la façon dont on veut le traiter, c'est pas de la provocation. La provocation, elle est faite par ceux qui ne veulent pas la paix, pas pour les gens qui veulent la paix. Moi, je fais ces films pour essayer de trouver ou de d'inciter les gens à trouver une solution à tous ces problèmes. C'est pas, je veux pas vraiment provoquer pour provoquer. Je vais montrer au monde aussi, parce que c'est des choses des fois qui se passent en vase clos où les gens extérieurs ne savent pas exactement ce qui se passe et puis voilà. Donc mais c'est sûr que des fois ça déchaîne beaucoup de passions et de débats, mais moi j'aime beaucoup ça. Plus on débat, plus on fait avancer les choses plutôt que d'aller tirer sur les gens. Je préfère débattre dans une salle de cinéma que voilà.
Donc, eh oui, tout à fait. Tout à fait.
Je le vois comme ça, moi.
Oui, tout à fait. Et puis le changement social, de toute façon, ça vient des marges, ça vient des idées qui provoquent. Là, on parle de violence, on s'entend que tu fais provoquer par les idées, et notamment le projet qui est en cours.
Les femmes tambourinaires, oui. Ça montre le degré aussi d'acceptation de nos sociétés aujourd'hui. Peut-être que les traditionalistes au Rwanda ne peuvent plus stopper ce phénomène, c'est impossible. On peut pas. Moi, je m'amuse toujours à dire, j'ai une fille, je peux pas lui interdire à jouer du tambour. C'est pas possible. J'entends même pas lui interdire. C'est pas possible, quoi. Il y a des sujets, il faut qu'on les fasse avancer si on veut que nos sociétés soient en accord avec 2022.
Oui, et on peut supposer que ce film-là qui met en lumière les femmes rwandaises hein, qui jouent à cet instrument-là, qui se regroupent de cette façon, si tu viens de dire qu'au Burundi, c'est toujours pas péché, c'est pas pratiqué, c'est pas courant, ça pourrait, ce film pourrait être l'objet d'un panel public, d'un forum public, d'un dévoilement public où on où le film permet à faire sortir et ressortir des sujets tabous ou bien des personnes voilà, c'est l'espoir finalement de ce genre de film documentaire que tu fais. Alors Joseph, je pense on tire à la fin de notre conversation. Je tiens à te remercier très vivement, très chaleureusement de Toronto. On t'envoie des bonnes ondes de Toronto au Rwanda.
Merci.
Et bonne chance pour la fin du tournage. Hein?
Merci beaucoup.
Et tu reviens à Toronto après l'hiver?
Oui, oui. Il m'a dit qu'il faisait moins 30, ici il fait 24, donc c'est mieux d'être ici. Mais vers avril, je serai à Toronto.
Parfait. Mais on pourrait peut-être envisager t'inviter comme conférencier au CREFO pour présenter ton film, par exemple, lorsqu'il sera...
Avec plaisir.
Lorsqu'il sera terminé, ou bien peut-être un autre film, même le film duquel nous avons parlé aujourd'hui, hein, Les Oubliés, on pourra peut-être faire une animation, un débat, une discussion publique là-dessus.
Oui.
D'accord. Mais merci beaucoup, Joseph.
Avec plaisir.
Et puis, bonne fin de journée.
Merci.
Merci, au revoir.
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca.
KYUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Commémoration du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Du 9 au 12 avril 1917, dans le nord de la France. Commémoration organisée cette année par le comité Vimy-Toronto 2022. Le 9 avril 1917, une première vague de Canadiens avançant derrière un barrage roulant. Même si cette tactique d'artillerie assurait un certain couvert, nos soldats étaient quand même exposés à des tirs de mitrailleuses ennemies. Pour commémorer le 105e anniversaire de la bataille de Vimy, le comité Vimy-Toronto 2022 vous donne rendez-vous dimanche 10 avril 2022 à 10h au 55 au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. C'est le métro Queen. Pour plus de renseignements, Monsieur Gérard Poupé-Hill du comité Vimy-Toronto 2022. Vous pouvez le joindre par courriel au ggpoupéhill@gmail.com. Tous les détails sont sur notre site web popourichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy du 9 au 12 avril 1917. Non plus jamais ça. 100 000 Canadiens participaient à la bataille de la crête de Vimy. Plus de 10 600 Canadiens blessés. 3 600 y laissèrent leur vie. Le courage, la bravoure, l'abnégation des vétérans est une source d'inspiration. N'oublions jamais. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy dans le nord de la France. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre est aux portes de l'Europe. Nos pensées vont aux populations civiles, familles, pauvres et personnes vulnérables en Ukraine. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, dimanche 10 avril 2022, à 10h, au 55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto, métro Queen. Tous les détails sur popourichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Non plus jamais ça, non plus jamais la guerre.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
Popourri Show et CIUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Tu montes, tu descends,
Le soir, c'est couleur tropicale.
Pure,
les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et Thibaut Baduel, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanuto, bonne arrivée la famille. Bienvenue pour des couleurs tropicales où les musiques pop côtoieront un sketch de Fadili Camara, où les chansons de la génération consciente donneront du poids aux notes vocales des auditeurs leaders. Et puis, il y aura la séquence consacrée à l'esclavage en résonance avec la journée mondiale du 25 mars dédiée aux victimes de l'esclavage, une date instaurée par l'Organisation des Nations Unies. L'esprit de la génération consciente est là, Valsero, dans la radio des gens.
Ça te prend par les neurones, ça te fait tourner la tête. Une grosse montée d'adrénaline, et t'as le cœur qui part en flèche. Tu te laisses transporter par des gestes qui te caressent. Y'a de la classe dans la gestuelle, de l'adresse, de la finesse. On le fait comme Mbappé, placement de jambe gauche, droit tout en finesse. On joue des reins pour te dribbler, fin sur la gauche, petit pont comme Mbappé. Le mec est natif de Bondy, a grandi chez les Bondy, des HLM et des Tony, au sommet de la tour Eiffel. On le fait comme Mbappé, passement de jambe gauche, droit tout en finesse. On le fait comme Mbappé, passement de jambe gauche, droit tout en finesse. On le fait comme Mbappé, passement de jambe gauche, droit tout en finesse. On le fait comme Mbappé, tout en finesse. Comme Mbappé, gauche droite tout en finesse. Sur le stade, sur la piste, même jeu de jambes crochées tout en finesse. On le fait comme Mbappé, gauche droite tout en finesse. Sur le stade, sur la piste, même jeu de jambes crochées tout en finesse. Dans le foot, dans la musique, avoir ta classe ça fait magique. Venu de l'amour est essentiel, faut le cœur qui va avec. On le fait comme Mbappé, passement de jambes gauche, droit tout en finesse. On le fait comme Mbappé, passement de jambes gauche, droit tout en finesse. On le fait comme Mbappé, passement de jambes gauche, droit tout en finesse. On le fait comme Mbappé, tout en finesse. À ses adversaires, ils rêvent tous d'être Mbappé, crochet du droit, pleine lucarne dans les filets. Ils veulent tous être Mbappé, passement de chantier croisé dans les filets.
Valsero ouvre la session avec comme Mbappé, avec un petit clin d'œil, un big up. Merci au grand joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde. Chanson festive, mais avec Valsero, il y a toujours le message positif, même lorsque le contexte et l'époque sont à la discorde. En parlant de positif, il est intéressant qu'en France, les journalistes sportifs ne prononcent plus Mbappé, mais Mbappé. Ah, sauf Didier Deschamps, le coach de l'équipe de France. Eh non, franchement, quand même. Est-ce qu'on dit pneu? Non, on dit pneu. Donc alors, non, ça m'énerve. Le 21 mars, il faisait sa libre antenne. Voici, y'a Lévis.
Je dois l'avouer, aucune ne m'a fait craquer si fort. Je l'ai vue danser, elle sait qu'elle plaît, et ça s'épuisait là. Deux minutes, on m'a si t'as promis. Je ne joue pas, je te veux à mes côtés. Je veux plus chercher tes matières promises. Si tu me suis, nous deux, c'est all day. J'ai vu des jolies femmes, elle a ses traumas. Je dois l'avouer, cette fois je suis piqué. Si tu veux, on décolle d'ici sans atterrissage. Si tu me suis, c'est all day, chill, sex and sad. Elle a ce joli boum 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 boum. Sur elle, mes yeux sont vrais. fait boum boum boum. Je veux chuter qui mon cœur fait dum dum dum. Profitons jusqu'à pas d'heure. Je veux faire tout ce que tu proposes. Je suis trop fan, les autres femmes des fleurs fanes et sans importance. Innocent, mais je veux braquer ton cœur, te voir sourire, on est limité. Et si ce crime garantit qu'on finisse ensemble, je plaide coupable vu des. J'ai vu des jolies femmes, elle a 7 ans. Cette fois je suis piqué. Si tu veux on décolle d'ici sans atterrissage. Si tu me suis c'est all day chill, sex and sad. Elle a ce joli boum boum boum. Sur elle mes yeux sont braqués, je zoom zoom. Quand elle danse ça fait boum boum boum. J'avoue je suis piqué, mon cœur fait dum dum. Si tu veux on décolle d'ici sans atterrissage. Si tu me suis, c'est all day.
La libre antenne Génération Consciente de Yalevi, ce fut un pur bonheur. Les échanges avec les auditeurs leaders furent plein d'enseignements. Yalevis a même répondu aux polémiques. La séquence la plus émouvante reste celle lorsqu'il nous parlait de sa maman. All Day, extrait de l'album L'amour change le monde. Et il a bien raison, spéciale recommandation. De l'amour, il y en a dans les propos de Fadili Camara quand elle parle des femmes, d'elle et de ses copines et les clashs qui vont avec. C'est le sketch du jour.
Attends les filles, faites du bruit pour voir vite fait. Je vous dis la vérité, en vrai, je suis obligée de commencer par les filles, tu sais. Parce que quand on se connaît pas, on se voit trop comme des rivales, hein. Alors que les mecs, ils nous voient plus comme un projet, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vrai, tu sais. Tu sais, par exemple, elle, dans sa tête, elle se dit « Alors que lui, dans sa tête, il se dit « Tu sais, c'est dur de se faire respecter. Vous savez qu'un des seuls métiers où les femmes sont mieux payées que les hommes, c'est mannequin, vous le saviez, ça? Il y a ça et il y a actrice porno, vous le saviez, ça? Donc, en gros, pour être bien payé, c'est soit tu manges rien, soit tu manges. Mais tu manges! Eh, c'est grave! Tu sais, vous savez, moi, je suis pas dans les délires de fémène, tout ça. Bon, parce que je peux pas. Mais je trouve ça abusé que pour le même métier qu'un homme soit payé 20% de plus qu'une femme. Je trouve ça abusé! C'est pas vrai, les filles? À mon ancien taf, Arnaud, il était payé 20% de plus que moi. Tu sais, moi, je voulais comprendre pourquoi. Je voulais pas faire genre, girl power, girl power. Moi, je suis allée voir mon patron tranquillement, posément, au KLM-ment. Et je lui ai demandé, hé, pourquoi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je sais pas. Et il m'a énervé. Une semaine après, il vient me voir, il me dit, Fadji, franchement, je comprends pas, ça fait une semaine, ton dossier, il est pas complet. J'ai dit, ouais, il manque 20%. Pa, 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 pa. J'étais trop chaude. Bon, comment je me suis fait virer. Mais comment j'étais trop chaude. Oh là là là. C'est pareil. On a la journée du cancer. On a la journée du sida. On a la journée de la lèpre. On a la journée de la femme. On est des maladies. En plus, tu gagnes quoi, franchement, ce jour-là? Rien. Bikini. L'intention, elle est bonne. Mais si vous voulez nous mettre un jour, les gars, tiens, ok. Mais faites-nous un vrai truc. C'est, je sais pas, par exemple, comme un jour, on a le droit de faire ce qu'on veut et personne n'a rien le droit de dire. Ça serait pas dingue, ça? C'est... Tu rentres chez toi, tu vois ton mari posé devant la télé. Ça va, t'es bien? Ouais. Pam! Et t'as ta PlayStation, batringue. Pardon, je fais ce que je veux. Pam! Vernis-moi les orteils. Pam! Pam! Pa, 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 pa. 7-5, c'est la championne. 6-7-5, c'est la championne. Pa, 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 pa.
Ah, Fadili Camara. C'est la première partie du sketch, hein, donc vous l'avez compris, la suite dans quelques minutes. Si vous souhaitez réagir au sketch ou demander à entendre des humoristes, laissez-nous une note vocale, un message donc sur notre WhatsApp au 00336-3742-6224 et nous exaucerons vos vœux.
C'est quoi un peu
couleur tropicale.
De toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine.
Couleur tropicale ou rien.
La séquence spéciale consacrée à la journée mondiale en hommage aux victimes de l'esclavage et de la traite négrière transatlantique. Une date initiée le 25 mars 2007 par l'Organisation des Nations Unies.
la matula.
En bas chaîne là, dans les chaînes, les fers de l'esclavage, Kassav, les voix de Jean-Philippe Martelly et Patrick Saint-Éloi. Cette chanson culte traite donc de l'histoire des Antilles françaises, de leur peuplement dû à l'esclavage. En bas chaîne là évoque ce peuple antillais fier, sorti du fin fond des ténèbres du crime de l'esclavage. Un peuple déterminé à ne pas s'apitoyer sur les affres du passé et du quotidien dû à ce passé toujours présent. Patrick Saint-Éloi dit « Le zouk a pris une autre dimension et nous sommes prêts à inonder le monde entier. » Extraordinaire. Vous rendez-vous compte ? Exprimer la douleur de l'esclavage pour finalement dire que rien ne pourra arrêter l'affirmation de notre identité et que le monde nous recevra. N'est-ce pas ce que Kassav a finalement réalisé ? Oui, évidemment.
Tu sais, tu vas vouloir la toucher, elle va dire « eux ». Qui t'a invité ? Qui ? Et là, tu vas lui expliquer. Alors, excusez-nous, on a fait une petite erreur. Oui, c'est ballot. Alors, vous n'êtes pas Miss Univers, effectivement, mais vous êtes en réalité première dauphine. Là, elle va te dire, moi, dauphine. Moi, dauphine. Non. C'est un comique. Non. Non, répétez, je vous écoute, répétez, moi, dauphine, donc je suis un dauphin. Merci, le Comedy Club.
Ah, Fadili Camara, que du talent, Fadili Camara. Bon, régulièrement dans Couleur Tropicale, hein, parce qu'on l'aime, hein. Toi-même, tu connais. Terminons ces Couleurs Tropicales avec Queen Koum, l'une des plus belles voix du Gabon et du continent également. Queen Koum qui ne s'interdit rien. Elle sait se servir de la tradition et offrir du tradi moderne pour justement nous proposer des chansons originales. Le jazz et l'afropop font également partie de son univers. La preuve avec le titre Dédé. Salut.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Wallen. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement.
Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie rassemble et mobilise 88 États et gouvernements, dont 7 associés et 27 observateurs. Cet ensemble représente 17,5% de la population mondiale et contribue à 16,6% du PIB mondial. À ce jour, le réseau de l'OIF compte 13 représentations extérieures qui animent sa coopération et font rayonner la francophonie sur la scène internationale, 3 centres régionaux pour l'enseignement du français et 2 instituts spécialisés dans les domaines de l'éducation et du développement durable. La francophonie, c'est aussi 4 opérateurs et une assemblée parlementaire. Tous les 4 ans, son observatoire de la langue française recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue à travers le rapport « La langue française dans le monde ». Présente sur les 5 continents, la langue française cohabite au quotidien avec plus d'un quart des 6000 langues existantes, dont entre 2000 et 2500 se trouvent sur le seul continent africain. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 321 millions de locuteurs dont 255 millions en font un usage quotidien. Plus de 60% d'entre eux résident en Afrique avec une hausse de 15% depuis 2018 sur ce continent. La langue française est parlée par plus de 50% de la population dans 13 pays et entre 20 et 50% dans 20 pays. En Europe, ce sont près de 136 millions de personnes qui sont capables d'avoir une conversation en français. Dans les pays du continent africain où le français est d'usage quotidien, le français est présent au travail dans tous les cas de figure. Il est même en première position dans les villes de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la République démocratique du Congo. À la maison, la fréquence d'usage du français est moins importante, mais sa position dans la hiérarchie des langues demeure relativement stable. On retrouve même la langue française en première position dans les milieux urbains de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Gabon. La variété des expressions et l'inventivité lexicale des francophones renouvellent et enrichissent la langue française, comme le montre le tout nouveau dictionnaire des francophones. Dans le monde, on compte 144 millions d'apprenants du ou en français. Le français est la langue principale d'enseignement dans 36 États ou gouvernements et ce sont 93 millions d'élèves et étudiants qui sont scolarisés en français, dont 54 millions en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. La francophonie intègre également les langues nationales au sein de ses programmes pour accompagner la formation des maîtres du primaire et le renforcement de politiques linguistiques et éducatives plurilingues, principalement en Afrique. Avec ses 51 millions d'apprenants, le français est également la 2e langue étrangère la plus enseignée, ce qui représente une augmentation de 6,5% par rapport à 2010. Les motivations professionnelles et les possibilités de mobilité internationale que permet la maîtrise du français pèsent de plus en plus dans le choix de cette langue. Dans l'Union européenne, le français est aussi la 2e langue vivante étrangère des enseignements primaires et secondaires. La francophonie est également active dans les industries culturelles et créatives dont le poids augmente chaque année, représentant en 2021 3% du PIB mondial et 6% des emplois. Le rôle croissant que joue le numérique et le phénomène de plateformisation de la distribution des contenus culturels impose de nouveaux défis pour la diversité culturelle. Face aux contrôles exercés par les plateformes internationales sur les choix de consommation culturelle, grâce notamment aux algorithmes, l'OIF entend renforcer la découvrabilité des contenus francophones au travers de sa nouvelle stratégie de la francophonie numérique 2022-2026. Elle se mobilise autour d'actions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation à destination de tous les acteurs concernés. Le français est également la 4e langue d'Internet et la 2e langue la plus cybermondialisée après l'anglais. En tout, ce sont 43% des internautes qui sont plurilingues. Bien que le français soit la 2e langue des organisations internationales, seulement 4 à 12% des textes sont produits en français. Pour contrer le danger du monolinguisme et faire reculer le recul du français, la francophonie met en place un nouveau dispositif de veille, d'alerte et d'action pour la langue française et le multilinguisme. Grâce au groupe d'ambassadeurs francophones, aux diplomates de tous ses pays membres, aux alliances avec d'autres espaces linguistiques, plusieurs organisations internationales et régionales comme l'ONU, l'Union africaine ou l'Union européenne considèrent le multilinguisme comme une condition essentielle du multilatéralisme et un bien commun à défendre. Du côté des médias, TV5 Monde, l'un des plus grands réseaux audiovisuels mondiaux, s'adresse aux francophones comme aux francophiles dans toute leur diversité linguistique et culturelle grâce au sous-titrage en 13 langues. La chaîne réunit plus de 80 millions de téléspectateurs chaque semaine et est reçue par plus de 404 millions de foyers sur la planète. Sa nouvelle plateforme francophone TV5 Monde Plus offre plus de 5000 heures de programmes en accès libre. Ensemble, faisons rayonner la langue française. France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
CUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Eh oui, et Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et surprises.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise.
Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte, c'est lui-même.
Faites-moi le cheval.
Ah non, pas le cheval.
Je veux être au sommet de la perfection.
2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique? Molière l'Africain, est-ce possible? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022. Alors soyez-y. Popourri Show, 35 ans déjà. On est toujours bien ensemble.
2h du matin, essayez d'oublier. À 2h du matin, dans les tranchées avec le passé. On n'a pas assez de faire comme si amis-moi était la seule sortie. Ne plus vouloir d'une vie de soldat qui ne sait plus trop pourquoi il se parle. Et puis se dire quelque chose a changé, qu'on ne sera plus même demain. Se dire un jour que tout a changé. Au passé, voir la force de l'identité. Bon voyage, j'ai le cœur ouvert. Garde en photo dans mes valises, mais quoi que tu me dises, je suis quelqu'un sans toi. Bon courage, et pars tranquille, j'suis pas du genre qui tire dans le dos. Ce n'est pas un au revoir, c'est du nouveau. Je souhaite le meilleur, par le cœur léger, on aurait essayé.
oui, nous venons d'entendre un bon voyage. Quel beau titre. C'est le titre du dernier album de Corneille, Montréal, Québec. Que de chemin parcouru depuis son Rwanda natal jusqu'à présent. Encre rose. L'expérience, une immersion totale dans l'univers de Corneille. Je vous invite à visiter son site web, tout de rose d'ailleurs, corneilleofficiel.com. Vous retrouverez tous les liens sur notre site popourichaud.com. Encre rose, l'expérience. Il est actuellement sur toutes les plateaux télé de France en ce moment. Il est en tournée en France. Il nous a laissé un petit message et je cite « J'étais libre et audacieux sur cet album et c'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous l'offre en espérant de tout cœur qu'il vous plaise. C'est aussi un travail d'équipe. Un grand merci à mes co-architectes Sofia de Medeiros, Marco Volsi, Dan Cinelli, à mes musiciens Alex Paquette, Hubert Tremblay, Giovanni Artega, Kepler, Jean-Baptiste Adachny. Encre rose, nouvel album enfin disponible sur toutes les plateformes. Et maintenant, place à la question du jour. C'était cette semaine. Pourquoi s'inquiéter du franglais? Depuis nos émissions spéciales du mois de mars, mois de la francophonie, les auditeurs ont continué le débat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Petit rappel, tout de même, tout a commencé au mois de février. L'Académie française a émis un rapport sur l'état de la langue française. Elle s'inquiète d'un recours aux anglicismes dans la langue française. Un usage qu'elle juge abusif, en particulier dans le langage institutionnel. Le franglais est-il une menace pour la langue de Molière? L'invité de RTL cette semaine, Julie Neveu, linguiste maîtresse de conférences à l'Université de Sorbonne. Elle est auteure de « Je parle comme je suis » aux éditions Grasset. Vous retrouverez tous les liens sur notre site CUT 89,5 FM. 35 ans déjà, « Je parle comme je suis ».
7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La question du jour, l'Académie française s'inquiète de l'essor des anglicismes dans la langue de Molière. Dans un rapport rendu public, elle en appelle à la prise de conscience collective, estimant que l'emploi de certains mots anglais, en particulier dans le langage institutionnel, fait peser le risque d'une fracture sociale et générationnelle. Open Panthéon, Superfell, Before, quitte l'emploi banalisé de ces expressions, met-il en péril la langue française? Bonjour Julie Neveu.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Vous avez publié « Je parle comme je suis » et dans deux jours dans AOC sur l'évolution du français. Mais alors justement, qu'est-ce que le franglais pour une linguiste?
Ah, c'est un écran de fumée. C'est-à-dire, ça correspond vraiment à aucune réalité, aucun fait de langue qu'on puisse vraiment décrire. D'autant que, si vous voulez, à quel moment on dit qu'un mot cesse d'être anglais ou commence d'être français, c'est un long processus d'appropriation. Et en fait, la lecture nationaliste pour un mot n'a aucun sens, c'est un contresens. En fait, le rapport de l'Académie française, qui en effet, comme vous l'avez dit, veut éveiller les consciences, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait qu'éveiller les mauvaises consciences, c'est-à-dire créer des complexes linguistiques, et qu'elle veut faire autorité alors qu'elle ne comprend pas la matière dont elle parle. Et c'est quand même, je trouve, assez problématique.
Alors, quelle est cette matière, justement?
Une matière vivante, donc. Une matière vivante. Et c'est quoi une langue? Comment se constitue une langue? Comment elle évolue? Elle évolue en puisant, en piochant. Elle prend tout ce qui passe. Donc, c'est vrai qu'elle prend beaucoup. Et après, ça, vous voulez, le temps fait son effet. Et donc, elle ne garde que ce qui est vraiment pertinent et utile. Et en fait, tous les anglicismes qui sont, la plupart de ceux qui sont mentionnés par l'Académie française sont évidemment des créations publicitaires qui n'ont aucune vocation à rester. Et elle ne s'intéresse pas du tout à ce qui est la réalité du français parlé et échangé, qui est beaucoup moins empreint déjà de mots anglais. Et ensuite, surtout, eh bien, il y a un jeu, quelque chose de ludique. Et donc, on prend quand on a besoin, si vous voulez. Donc, le Covid, elle cite le Covid dans son rapport. Mais le Covid, est-ce que c'est perçu comme un mot anglais? Est-ce que c'est pas une réalité qu'il a fallu nommer et que tous les pays se sont malheureusement appropriés? Donc, en fait, si vous voulez, une langue est obligée de nommer la situation et dans sa complexité et dans sa différence. Donc, si vous voulez, le problème majeur d'un point de vue intellectuel, c'est que vous allez avoir le rapport qui dit « Ah, il faut se débarrasser de tous les anglicismes » et donc on ne parle plus de week-end. Mais week-end, s'il a été retenu, c'est parce que c'est pas la même chose que fin de semaine. Voyez. Et si on garde « follower » qu'ils conspuent dans leur rapport, c'est peut-être moche, mais c'est que ça correspond à une pratique sur un réseau social, voyez, ce qui n'est pas la même chose qu'abonné qu'ils proposent. Donc il y a toujours une nuance de sens qui fait qu'on va retenir le mot s'il correspond à une pratique.
Bon, mais on cite toujours nos cousins québécois qui utilisent des termes, qui le font de manière plus ou moins contraignante. Et on se dit, justement, Julie Neveu, que si on contraint les gens à utiliser, je ne sais pas, courriel à la place de mail, eh bien, peut-être qu'on retiendra courriel.
Alors, c'est vrai que les Québécois, ils ont une politique linguistique plus réactive et qu'ils la suivent plus massivement parce qu'il y a un enjeu identitaire plus fort. Voyez, ils ont besoin d'exister par différence et ça va être par la langue. Voyez.
Je vais pas avoir de problème avec nos cousins québécois.
Non. Ils existent. Non, ils ont raison. C'est-à-dire, mais nous, l'enjeu n'est pas celui-là puisque culturellement, il y a plein d'autres choses qui nous réunissent, qui nous différencient en fait.
Et puisqu'il y a beaucoup de choses qui nous différencient, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas imaginer un autre usage d'autres emprunts? Parce que, après tout, ce sont surtout des emprunts à l'anglais.
Alors voilà, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'Académie française, suite à donc ce mot franglais et au combat qu'a décidé de mener quelqu'un qui s'appelait donc Etiamble en 1964, qui a inventé ce mot, pour déjà dénoncer l'invasion des mots anglais, l'Académie française s'énerve beaucoup sur les mots anglais, et c'est normal, c'est ceux qu'on emprunte le plus en ce moment. Mais au XVIe, il y avait déjà des gens comme un certain Étienne qui était l'imprimeur du roi et qui, lui, s'offusquait beaucoup des mots italien. Donc, si vous voulez, selon les époques, on s'offusque de tel ou tel mot étranger. Et c'est toujours, en fait, un discours patriotique, si vous voulez, qui forge ce rejet du mot. Et d'ailleurs, certains linguistes parlent de xénophobie linguistique. Il y a quelque chose de l'ordre de « ah, résistons à l'invasion ». Or, une langue, c'est un matériau culturel qui incorpore sans arrêt et qui agrège des nouveaux éléments d'où qu'ils viennent.
Mais alors, le fait, là aussi, que ce soit malgré tout des emprunts à la culture considérée comme dominante, la culture anglo-saxonne. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme a un sens pour une linguiste, Julie Neveu.
Là, par exemple, les anglicismes qu'il regrette sont plutôt le fait de californisme, c'est ce qu'Alain Ray disait.
Californisme.
Oui, j'aime bien.
Et ça veut dire
quoi? C'est le mot qu'il avait dit pour désigner justement une ère géographique. En fait, c'est vrai que c'est massivement des emprunts récents pour désigner les technologies numériques. Votre question, c'était quoi?
le fait que ce soit essentiellement issu d'une culture dominante,
parce qu'il
y a peu d'emprunts à d'autres langues, des langues rares ou des langues moins parlées de par le monde.
En fait, il y a eu des époques avec beaucoup d'autres emprunts, donc l'italien, l'arabe, il y a de plus en plus d'emprunts aux cultures asiatiques en ce moment dans la gastronomie. On les perçoit moins. En fait, c'est une question de percevoir comme étranger. Et ce qui dérange les académiciens, et en ça, d'ailleurs, je ne me moque pas du tout. C'est vrai qu'il y a une forme d'exclusion de ceux qui ne comprennent pas. Et que ça touche, c'est un problème de génération. Mais c'est vrai de tous les faits qui affectent, qui créent le fossé entre les générations. C'est-à-dire que les habits, les mœurs, les façons de parler, tout ça crée un fossé générationnel. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est l'anglais aujourd'hui qui cristallise le plus la fracture générationnelle, puisque c'est là-dedans qu'il y a le plus de jeunes qui travaillent et qui est donc une langue d'experts qui fait illusion et qui exclut ceux qui ne comprennent pas.
Mais cela irait-il plus vite aujourd'hui, Julie Neveu, puisqu'on dit que tout va vite, trop vite parfois? Est-ce que ces emprunts à l'anglais, ils sont plus nombreux que ceux que l'on observait à d'autres langues auparavant?
En fait, c'est la révolution numérique qui fait qu'en effet, il y a eu beaucoup d'emprunts là. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui font partie du domaine professionnel, du milieu professionnel. Et donc, les locuteurs d'une langue vivante s'adaptent et donc ils vont pas parler comme ça quand ils sortent. Là, le rapport de l'Académie française mentionne toutes sortes d'exemples pris au discours promotionnel, donc publicitaire. Or, évidemment que toutes ces institutions essaient de s'adresser à un public plus jeune. C'est peut-être ça qu'elles veulent dénoncer, qu'elles le dénoncent dans ce cas-là plus clairement, c'est-à-dire que la cible est en effet un peu restreinte. Mais néanmoins, bien sûr que donc il y a beaucoup de mots anglais, mais que ce sont les pratiques, la réalité de cette domination économique qui est en fait le problème de l'Académie française, non pas la langue, qui ne fait que refléter cette réalité.
Et alors si on interdisait, ça fait partie de certaines propositions de candidats à la présidentielle,
messages
en anglais, ce genre de choses, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une utilité pour préserver...
Mais c'est impossible, c'est un fantasme absolu. En fait, ce que je trouve vraiment gênant, c'est-à-dire que l'Académie française fait un rapport pour dire que c'est préoccupant, les mots anglais pour l'évolution de la langue française. Donc c'est faux. Déjà, en fait, il y a trois questions. Les trois questions, c'est est-ce que c'est excessif et ridicule tout ce qu'elle cite? Oui. Ça, c'est vrai. Oui, ça l'est. Est-ce que c'est un échantillon représentatif de la langue française telle que tous les Français la parlent? Non. Est-ce que ça représente une menace pour l'évolution de la langue française? Non. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut poser comme question, je pense. En fait, le discours là que tient la langue, que l'Académie française, c'est un discours lui-même promotionnel pour envisager en fait une langue française qui serait un idéal monolingue avec des mots que j'ai lus qui sont la syntaxe française est plus claire, etc., qui sont des fantasmes, une fois de plus, sur ce que c'est qu'une langue.
Alors, ma dernière question, Julie Neveu, si on vous proposait d'entrer à l'Académie française, quel rôle iriez-vous là-bas? Est-ce que vous considériez, par exemple, qu'il faudrait cesser la défense, cette défense-là du français?
Ouais, je ferai un cours de linguistique réaliste, si vous voulez, parce que c'est vrai que ce sont des écrivains qui écrivent tous ces rapports, et ils écrivent très bien, et donc forcément, ils magnifient la langue qui les fait vivre, et je comprends. Néanmoins, ce ne sont pas des linguistes, ils ne comprennent pas, en effet, ce que c'est que la vitalité d'une langue, et ils s'inquiètent, ils créent des faux débats, et ils créent des inquiétudes, et c'est vrai que j'en ai assez de la rhétorique de la peur. On n'a pas besoin de sujets d'inquiétude qui sont des faux débats.
Vous voulez pas profiter du micro pour poser votre candidature?
Non, merci.
Je parle comme je suis, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Grasset, et on vous retrouve aussi dans AOC sur l'évolution du franglais. Merci Julie.
Et oui, nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental grâce au capitaine de bord DJ Devera. Cela a été tout un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui et merci de votre fidélité. J'espère que vous allez profiter un peu de soleil, un peu de l'air du printemps, pourquoi pas. Et oui, merci infiniment pour vos messages. Est-ce qu'on a un peu de temps? Parce que vous m'avez envoyé plein de messages. Voilà un auditeur qui nous écrit « La vitalité de la langue, comment se constitue et évolue une langue ? C'est une matière vivante. Elle évolue en piochant et prend tout ce qui passe. Elle prend beaucoup, mais le temps fait son effet et elle ne garde de ce qui est pertinent et utile. La plupart des anglicismes mentionnés par l'Académie française sont évidemment des créations publicitaires qui n'ont aucune vocation à rester. » L'Académie française cite le Covid dans son rapport, mais est-ce que le mot Covid est perçu comme un mot anglais? Est-ce que ce n'est pas une réalité qu'il a fallu nommer et que tous les pays se sont malheureusement appropriés? Une langue est obligée de nommer la situation dans sa diversité et dans sa différence. La xénophobie linguistique, nous écrit un monsieur de la région de Gatineau. Voilà, la langue française emprunte surtout à l'anglais. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres emprunts? Parmi les autres messages, une auditrice aimerait qu'on consacre plus de temps sur les peuples autochtones. Cela fait suite à un article paru sur le site de Radio-Canada il y a 10 jours environ. Les élèves autochtones privés d'école, faute de logement la dame aimerait bien qu'on consacre un peu de temps sur ce sujet. Ben, c'est passé, votre message est passé, madame. Il n'y a pas de problème. Un autre sujet qui fait polémique dans la communauté francophone à Ottawa, des élèves issus de plus de 30 familles noires auraient été placés dans un programme de soutien linguistique à Ottawa sans le consentement de leurs parents. Le Conseil des écoles publiques de l'Ontario, un conseil scolaire public francophone à Ottawa, aurait placé des enfants d'âge scolaire primaire dans le programme Actualisation linguistique en français qui vise à développer les compétences linguistiques afin que les élèves puissent suivre le programme d'études régulier. Rapporté The Globe and Mail, dans un article publié jeudi 24 mars. On n'en a pas tellement entendu dans les médias francophones. Pourquoi? Eh oui, les familles ne l'auraient appris que 2 mois après la rentrée scolaire, lors de la remise du premier bulletin, selon Charlene Grant, responsable du plaidoyer chez Parents of Black Children, l'une des nombreuses organisations à défendre les familles. Un parent, Hassan Ahmed, a appris à l'automne que son fils, qui est en 6e année, est entré dans le programme spécialisé dès la 2e année. Monsieur Ahmed, qui parle couramment le français et qui a été enseignant en Afrique, se dit fâché de la situation et son fils placé dans le programme d'actualisation linguistique démontre une grande facilité dans son apprentissage de la langue française. Il ignore encore aujourd'hui pourquoi son fils a été placé dans ce programme. Ils ont volé l'avenir de mon enfant, a-t-il déploré, réalisant que son fils a appris une version facile de la langue française depuis toujours. Et c'est ici que se termine cette émission. Merci à DJ Devera, professeur Laura Bisaillon du CREFO, Claudie Sillard, notre amie de toujours, et sa belle équipe Couleur Tropicale RFI, les équipes de RTL France Inter. Et c'est ce soir le grand rendez-vous des 19h50 heure française. Débat, interview, reportage, analyse et les premiers résultats sur France 24. Qui seront les vainqueurs de ce premier tour, et oui, présidentielle française, bien sûr. Allez, bon dimanche, bonne semaine, bon appétit si vous êtes à table. Je vous laisse avec celle qui sera dans la marmite de pot-pourri dimanche prochain, Jocelyne Béroir du groupe Cassave, qui nous confie son parcours dans son autobiographie pleine d'anecdotes. Dans son dernier livre, C'est loin de la mer, aux éditions du Cherche Midi. Jocelyne Béroir du groupe Cassave avec un de ses grands succès, Siwo. Allez, ciao, ciao, ciao.